Salut, c'est Fred Testo, bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Avec nous Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. On démarre avec un témoignage particulièrement révélateur des problèmes d'addiction, celui de Paul.
J'ai débuté les paris sportifs à mes 18 ans. Très vite, j'ai eu un gros gain. Je pariais non-stop. Je l'ai caché à mon entourage. Ça a duré plus de 9 ans et je me suis retrouvé dans une situation de surendettement.
Mohamed Bouafsi, votre analyse ?
Quand il commence à jouer, Paul, il est très jeune. Qui dit jeunesse, dit vulnérabilité. Et après ça, on tombe dans le jeu compulsif. L'engrenage, on croit qu'on peut gagner facilement et rapidement de l'argent.
Laurent Carilla, comment on tombe dans le jeu problématique ?
Il y a d'abord ce gain avec des émotions difficiles à gérer. Il y a d'autres étapes qui s'ajoutent, la perte, l'espoir de se refaire. Et l'étape d'après, c'est le désespoir avec ses conséquences. Tous les joueurs, même modérés, peuvent basculer dans le jeu problématique.
Parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra. J'ai avec moi aujourd'hui Xavier Vaution et Jacques Monclar. Salut les gars.
Bonsoir.
Bonjour Nicolas, bonjour le X-Man, bonsoir à tout le monde.
Il est 11h30, hein, mais bonsoir, bonsoir à tous.
Oui,
et à
je
tous,
sais pas pourquoi j'ai dit bonsoir.
Il est fatigué, ça, la journée commence. Hein.
Ça s'écoute à toute heure par
ça,
définition.
C'est vrai.
Et bravo à ceux qui courent, bravo à ceux qui rament dans leur maison, ceux qui courent sur des sentiers, ceux qui font du crossfit comme la vieille Reverge, tout ça, voilà. Ceux qui foutent rien aussi.
Ceux qui foutent rien.
Ouais, qui mangent ou qui boivent sur un canapé en matant la télé. Ouais. Ouais,
c'est bien aussi. C'est bien aussi. Ceux qui seront bientôt sur le canapé, c'est peut-être les Pacers qui perdent désormais 2-0 dans leur série face aux Celtics avec la blessure de Tyrese Haliburton aux ischio-jambiers. Il avait déjà été blessé cette saison à cet endroit-là. Et là, ça a recassé pour le meneur d'Indiana. Peut-être que ça signifie déjà un peu la fin de cette série, Xav, sans lui.
Ça va être plus que compliqué. On sait ce qui s'est passé pour les autres équipes lorsqu'ils ont eu des blessures majeures. C'est pas bien compliqué de s'imaginer que, de toute façon, même avec Haliburton, Boston paraît au-dessus de ce qu'on a vu hier soir. En tout cas, c'était assez limpide, assez clair. Oui, évidemment que là, la fin de série s'annonce à l'avantage des Celtics, évidemment.
Là, le premier match était tellement important. Pour Boston, ça a été un soulagement. Ils ont pu comprendre qu'il fallait qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Hier, on les a trouvés. Moi, je les ai trouvés qu'en première mi-temps. Donc, même s'il y a 72-68 hein, dans le match, mais en première mi-temps, quand ils leur passent le 20-0, qui passe devant, qui s'installe, ils mettent un punch terrible. Ils jouent très bien au basket. Voilà comment on veut voir jouer Boston. C'est comme ça.
Après, comment on veut pas voir jouer Indiana aussi.
Ouais, mais il y en a d'autres qui passeront à cette moulinette-là.
Oui.
Alors après, leur manque de rotation, leur silence, ça fait qu'il y a 72-68. Et là, ils les ont usés, comme ils avaient usé dans le quatrième quart-temps et les prolongations la dernière fois, pour revenir et pour gagner. Ils les ont usés. Pourtant, ils ont moins de joueurs. C'est leur qualité de jeu, leur qualité de défense, leur repli, leur transition défensive qui est très active. Ils se resituent très vite et ils vont chercher les mecs. Et qui que ce soit, tu vois Jaylen Brown sur Turner, tu vois Tatum sur un petit, tu vois tout ça. Et puis, je voudrais dire un mot de Jaylen Brown et Xav, on est témoin. En 2022, s'ils sont champions, qui est MVP ? Je pense que Jaylen Brown avait pas mal d'avance au moment où il perd de pied, mais il a été en tout cas le meilleur joueur de Boston. C'est un joueur qui peut se perdre avec des pertes de balles, avec des excès et des mauvais shoots, mais dans l'attitude, dans la capacité, il me rappelle Latrell Sprewell, dans cette capacité à des deux côtés du terrain à avoir une attitude de guerrier.
Plus que Jason Tatum, parfois,
que,
quand même.
Plus que tout le monde dans cette
ouais.
équipe.
Ouais.
C'est lui.
Non, parce qu'il y a toujours ce côté qui,
alors,
est le,
les compare,
qui est le leader.
Vois,
on est toujours en train de les comparer. Non, mais ça,
ouais,
on est toujours en train
sûr.
De les comparer. En plus, c'est
mais
deux,
non,
c'est deux
le
alliés.
Leader, c'est Tatum. Et c'est pour ça qu'on en parlait avec Xavier hier à l'émission. Moi, le scénario, si Boston, et je leur souhaite, venait à être champion, le scénario, un autre joueur que Steph Curry, donc Tatum, qui est MVP, ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Alors que le franchise player, c'est Tatum, en fait, c'est un duo. Et d'ailleurs, financièrement, c'est un duo.
Oui, c'est un duo qui coûte très cher. Mais ce qui est bien aussi pour Boston, c'est qu'ils avaient perdu les deux fois les Game 2 à domicile depuis le début des playoffs. Et là, en fait, ils ont été beaucoup plus sérieux que ce qu'ils avaient fait, notamment contre Miami et contre les Cavs.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison.
Je trouve qu'ils montent quand même clairement en puissance. Après, le parcours aussi est peut-être un peu plus facile, évidemment, que ce qu'ils auraient pu...
On peut voir à
l'Ouest, et puis il y a eu des blessés et tout ça, ils en profitent, mais ils sont là où on les attendait, et ça marche plutôt bien, et ça marche de mieux en mieux, je trouve.
Ouais, c'est vrai, et en fait on se rend compte qu'on n'a pas grand chose à dire sur cette série. Ça déroule comme la première série. Alors ok, ils ont perdu à chaque fois un match à domicile, oui, si on veut, mais je vois pas,
sur la manière,
il y a rien à dire, quoi. Il y a rien à dire de particulier sur ce qu'ils ont fait encore réalisé hier soir. Oui, ils ont été sérieux au match 2, bien plus qu'ils ne l'ont été sur les deux premiers tours, c'est vrai. Maintenant, on n'attendait pas autre chose que ça hier. Là où ils ont eu chaud aux fesses, c'était au premier match. La piqûre de rappel a été immédiate. Ils ont toujours besoin de ça,
les Celtics, en fait. Ils ont toujours besoin d'une petite piqûre de rappel, en fait.
Pendant les matchs, bien sûr. Parce que après le 20-0, il se passe quoi? Il se passe qu'Indiana revient. Ils reviennent à 3 points parce que Siakam foutait tout dedans. Parce qu'il
manque de banc pour stopper un mec qui est comme ça.
Ils ont été nous chercher Oshie Brissett.
Pas mal.
Alors là, incroyable.
Non, mais tu sais pourquoi? Parce que Xavier Tillman avait perdu son papa, je crois.
Ouais. Et il a fait ce qu'il fallait. Mais on peut tous les prendre. On parle tout le temps, effectivement, de Jason Tatum, de Jalen Brown. Hier, je me posais la question quand ils vont être champions de conférence, parce que je n'imagine pas autre chose que ça. Qui va être MVP?
Jalen Brown, non?
Je ne sais pas, on verra. Je n'en sais rien. Vous regarderez les stats. Vous regarderez juste les stats de Tatum. Hein. Il est premier ou deuxième partout.
Tatum, c'est quoi? C'est un peu comme les Celtics, en fait, ils représentent bien les Celtics, c'est qu'on attend toujours un peu plus.
C'est vrai, un peu plus de
Boston.
Moi, je trouve que Larry Bird, il a tout donné. Hein. Si tu parles dans l'histoire des Celtics, tu parles de l'histoire récente. Des mecs comme Garnett, il donnait tout. Paul Pierce, il est vrillé depuis quelques années, mais il donnait tout. Rajon Rondo, c'était quelqu'un qui avait la langue aussi, qui sortait. Enfin, c'est une culture à Boston. Le Leprechaun, toute leur histoire, elle vient de là. Ce sont des blue collars. Larry Bird restant à jamais, pour moi, plus que Bill Russell, plus que Bob Cousy, plus que tout le monde.
L'image absolue
du joueur des Celtics, au-delà de Boston, du joueur des Celtics. Et ils sont en situation d'être en finale NBA, en ayant perdu que chez eux, et ils vont se retrouver à 12-2. À ce moment-là, s'ils en lâchent un à Indiana, qu'est-ce qu'ils risquent? Ils risquent de gagner le cinquième à la maison et d'enchaîner avec les deux premiers matchs de finale NBA. On a affaire à une équipe qui a gagné 64 matchs, ce qui est énorme, et qui a dévasté, marché, sans but, très bien joué, sur une conférence qui a vu le numéro 2 et 3 naturel qui était Milwaukee et Philadelphie être décapité par des blessures, par ceci, cela, que l'équipe surprise qui était les Knicks
a décapité aussi par les blessures, hein.
À force, elle a explosé en route, et que Indiana se retrouve là, que c'est une bonne équipe, que s'ils avaient perdu le premier match, l'ambiance au Gainbridge, elle aurait été féroce et il y aurait eu risque d'une série à 4-2, tu vois.
Tout à fait.
Au pire, 4-3, mais ils seraient passés, les 6. Après, il faut récupérer Porzingis, ce qui va peut-être être un peu court, puisqu'ils avaient annoncé pour le match 4.
Ouais. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils jouent au match 4, hein, les gars.
Voilà. Ça lui a peut-être fait gagner le temps que... s'ils font 4-0, ou même à 4-1, ils peuvent prendre le risque, gagner le temps que les autres s'entrechoquent, et on saura ce soir si ça part à 1 ou à 2-0 de l'autre côté, mais on sent bien que de l'autre côté, ça peut durer quand même. Hein.
C'est pas plus mal, presque pour Porzingis, je sais pas, de revenir dans un match 5 où tu plies à la maison.
Il n'y a pas de match facile.
Ouais, il n'y a pas de match facile, mais est-ce que c'est pas mieux pour lui et son rythme de rejouer au moins un peu avant les finales NBA qui sont le 6 juin?
Je pense que le scénario parfait, ce serait de revenir à 3-0. Tu peux le relancer, tu sais que tu auras au minimum un match, voire deux, parce que je pense pas que ça puisse aller au-dessus du 5 si jamais Boston va en prendre à Indiana. voilà, ça va le remettre un petit peu en place, physiquement, etc., dans le jeu, en intensité. Donc, ce serait pas mal. À 3-0, ce serait vraiment le scénario parfait.
Il part avec l'équipe à Indiana, le scénario idéal. Il part avec l'équipe à Indiana, il joue pas le 3, il le ramasse, il joue le 4, il arrive ce qui arrive. De toute façon, il rentre à Boston et il bouge plus avant le match 1 des finales NBA. Pendant que les autres, on peut imaginer que ça va durer. Hein, on est qu'à 1-0, donc pas facile de dire.
C'est dans 2 semaines, hein, donc il aura le temps. Hein.
Il aura le temps, 6 juin, le premier match. Ouais. Ils auront le temps. Est-ce qu'il faut le remettre sur le terrain dans ce cas de figure?
C'est la question que je te pose. Moi, j'aurais
tendance à le laisser au frais.
Okay. Moi, je le remets à 3-0.
Ouais. Faut au moins gagner le prochain et le 4.
J'aurais tendance à finir comme ça. Voilà. Hein. Le laisser gentiment au frais. Et s'il se vautre un peu sur le premier match, c'est à la maison, c'est ci, c'est ça. Et là, c'est... Voilà, mais bon, parce qu'on en parle sur Haliburton, on fait comme s'il n'était plus là. Pourquoi ? Parce qu'on entend ischio. Mmh. Parce que lui, il a déjà été stoppé par ses ischio pendant l'hiver et qu'il avait mis un moment avant de remettre le nez à la fenêtre derrière.
Il n'a jamais été aussi... Il n'est jamais vraiment revenu.
Si, en play-off.
Un petit peu en play-off.
En play-off, ouais.
Par séquence.
Ouais, quand même, je trouve qu'il a fait...
C'est beaucoup mieux, c'est sûr.
Bon, a priori, il est out. Hier, on a vu aussi... Pour les Pacers, pour le futur, que Mathurin, c'était un mec qui peut s'opposer à Jaylen Brown. Et qu'il y en a, hormis Nesmith, mais il est battu physiquement, aucun dans le monde. Haliburton physiquement tient pas la route, enfin bref.
Nembhard ne peut pas non plus.
Mais Mathurin est important, Nembhard qui fait des belles choses.
Il fait des belles choses en attaque. Mais physiquement, il peut pas défendre. Pareil, il est un peu limité 90, aussi. Hein. Bah ouais,
Et Indiana hier, enfin quoi. Je veux dire, ils ont pas Porzingis, Miles Turner, mais ses premiers points, son premier point au milieu du troisième quart-temps, les gars.
Mais il avait été très bon dans le match 1 et hier porté
du match 2.
Oui, il était très bon, exactement. Non, mais c'est le problème, c'est que il est pas régulier. Quoi.
Forcément, c'est un souci. Non, mais Boston et Hawley, ils savent très bien ce qu'ils font. Quand je dis que je remets Porzingis à 3-0, c'est pas que je dis qu'il va y avoir 3-0. Si jamais il y a 2-1, je le remets pas. Tu vois, c'est ça.
Oui, bien sûr. Ouais.
Je vais terminer par rapport à ça.
Ah oui, j'entends ça.
Voilà, c'est ça. C'était. Je voulais aller au bout de ma logique, mais bon, voilà, c'est encore une autre histoire.
C'est musculaire hein, quand même. Hein, ça fait peur. Hein. Dès que c'est musculaire et que c'est autour du tendon d'Achille, il y a tellement de précédents. Et puis lui, perso, enfin, de toute façon, tu me diras si ça doit péter, ça pètera. Hein, bon.
Du coup, c'est une série qui pourrait vite ou assez vite être terminé. Au contraire, tu disais déjà que de Minnesota contre Dallas, Dallas qui a pris le match 1 à Minneapolis. Évidemment, en game 2, cette nuit, ultra décisive déjà pour Minnesota, même si, bon, quand ils perdaient 3-2 contre Denver, on les voyait déjà aussi un peu à la maison, et puis ils étaient revenus. Cette série, enfin le match 1 pour Dallas, c'était assez intéressant parce qu'en fait, je trouve que comme contre Oklahoma City, ils ont décidé vraiment de fermer l'accès à la raquette et de laisser Minnesota shooter un peu plus externe. Et en fait, avec Gafford, Lively et Washington, tu as des intérieurs ultra mobiles qui arrivent à faire des rotations et surtout qui ont un peu choisi leur poison en laissant Minnesota shooter de loin. Mais surtout en fermant cet accès à la raquette.
Je sais pas si c'est sans. Choisir un poison, ça veut dire que t'es battu.
T'es forcément battu à un moment à ce niveau-là
chose. Oui, je pense qu'ils ont surtout tendu un piège. Ils ont laissé des positions ouvertes, mais sur des shoots qui restaient un peu difficiles quand même, ou par le rythme de la passe, ou par l'arrivée de la passe, ou par le positionnement de la défense, ou par le moment où on te le laisse dans le chrono. Ce qui est toujours important. Il y a des moments de chrono où il faut pas, et il y a des moments où il faut. Je pense aussi que Minnesota, je suis pas d'accord avec eux, c'est rare que je sois pas d'accord avec Chris Finch, quand il dit qu'ils sont arrivés flat, c'est-à-dire mou. Anthony Edwards avait dit pareil. Je crois pas. Je crois qu'il faut qu'ils restent froids. Vouloir défendre Kyrie en tout terrain dès le début du match, à part d'Anthony Edwards, ça avait été un péché de gourmandise. Quand ils prennent de l'avance, ils ont tendance à exploser, ils avancent en terrain connu, et ils sont, à l'image de Karl Anthony Towns, ils perdent lucidité à des moments, ça arrive aussi à Anthony Edwards. Là, Conley a pas réussi à réguler le jeu, calmer tout le monde, ce qu'il arrive bien à faire d'habitude. Bref, c'est parti en limonade. La réussite de McDaniels avait déséquilibré un petit peu leur attaque. Voilà, et il faut qu'ils restent froids dans la tête. Je trouve qu'ils sont, c'est couillon ce que je vais dire, trop enthousiastes.
Oui, c'est un peu survolté.
C'est bien l'envie, c'est bien, mais il faut la canaliser. Et il y a des moments où il faut rester froid et ça leur évitera d'être flat à la fin, parce qu'ils étaient cuits durs, refait tous les capots qui fumaient. C'était une casse de bagnole, à la fin, le temps mort de Minnesota, ça fumait de partout. Voilà, mais oui, je les crois capables de gagner, et je vais finir avec une connerie, mais je leur souhaite de gagner, mais pas de gagner trop, parce qu'ils vont devenir fous, ils vont se croire champions NBA. Donc, c'est ça, pour eux. Il faut qu'ils restent froids.
C'est un must-win. Tu peux pas te permettre de partir à Dallas à 0-2. Dallas leur laissera pas la moindre chance de revenir derrière, je pense. Comme tu disais, on a vu ça dans les playoffs. Enfin, ça peut arriver, mais quand même du mal à l'imaginer.
Et Denver récemment.
Exactement, juste enfin, le tour d'avant, c'était fini. La même équipe, mais dans l'autre sens. Et ça s'est mal fini. Non, Dallas a parfaitement géré le match 1. Le coup était relativement parfait. Ce que je disais hier, je trouve que Jason Kidd a outcoaché Chris Finch. On verra ce qui va se passer ce soir, mais là, on attend forcément une réaction maintenant. Il faut forcément réagir. Tu peux pas te permettre de perdre celui-là pour Minnesota. Et je pense que dans les têtes, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et Dallas aurait vraiment un pied en finale déjà.
Et c'est un peu, il y a un joueur, je trouve, qui est vraiment la variable à Minnesota, c'est Karl Anthony Towns, que j'ai. Bon, ouais, tu rigoles, mais. Non, mais qui toujours. Franchement, tu sais jamais à quoi t'attendre quand le match débute avec 4. Mais lui non plus, mais c'est le souci parce que c'est censé quand même être le lieutenant, on va dire, d'Edwards. Et puis je trouve qu'il passe à côté, moi, sur le match.
Le lieutenant, il y a le chef d'attaque et le lieutenant, c'est le chef de défense, c'est Rudy. Karl Anthony Towns, c'est un électron libre là-dedans.
Ouais, mais ça, oui, d'accord, mais là, je trouve qu'il répond pas aux attentes sur le match 1. Et en fait,
sur des séquences, il est là.
Mais sur la longueur du match.
Il fait beaucoup de danneries. Il joue 3 points. C'est lui. Sur 8 ou 1 sur 7 ou 1 sur 8 à 3 points. C'est lui qui déséquilibre.
Le meilleur shooter de l'histoire en Big Man.
C'est ça, selon lui. Oui, selon lui.
Mais attends, il est capable de faire 6 sur 7 pareil.
Dès ce soir, bien sûr.
Il faut accepter ce type de choses. Par contre,
Doncic, il a fait quoi au match 1 en termes d'adresse à 3 points? La même.
C'est pareil.
En pire, je crois même.
Il faut accepter sur l'adresse. Tu peux pas t'installer. Alors, hormis Curry, qui était quand même sur la régularité, mais Thompson à une époque, cette doublette-là. Mais le reste, non, tu peux pas espérer à 3 points. Ils ont Karl Anthony Towns dans son jeu. Ce qui lui manque, ce sont des shoots faciles. Parce qu'entre ce qu'il tente à 3 points et ce qu'il tente de difficile à 2 points, il joue un basket difficile. Voilà. Donc, risqué. Il faut qu'il trouve d'autres solutions.
Et il a bien défendu. Hein.
Nasrid trouve des points facilement parce qu'il est plus malin, plus direct et plus ce catch and shooter patient. Voilà. Après, Karl Anthony Towns, il te permet d'accéder à un niveau supérieur le jour où il n'a pas les fils qui se touchent et qu'il te fait 9 sur 15 au tir. C'est parce qu'il fait 2m12, qu'il est cavale comme un lapin, qu'il peut jouer en haut, en bas, à droite, à gauche. Et puis, dans sa tête, c'est pareil. C'est en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, des fois, il se trompe dans le labyrinthe. Mais c'est un joueur risqué. Mais oui, tu as raison. Moi, je dirais une variable d'ajustement. Oui, c'est surtout un baromètre.
Ouais, parce que le pic, il peut être très haut quand il est bon et du coup très moyen quand il est pas bon. Mais ça arrive trop souvent, en fait, je trouve.
Quand il brille, il fait du dégât. Puis il est spectaculaire. Hein.
C'est ça, mais il fait du dégât pour son équipe aussi. Quoi.
Mais enfin, ils sont en finale de conf. Ils ont perdu le premier en 11 sur 18 au lancer. Et sur le même volume, je crois que Dallas fait 16 sur 17. Tu vois, rien que là, il y est le match.
Non, mais Dallas est catastrophique à 3 points pendant la grande majorité du match et pourtant
il gagne
quoi.
D'où le problème.
Bah ouais, c'est ça le problème pour Minnesota.
3 pertes de balles dans les 2 dernières minutes, 30. Le panier à 3 points de Washington, et ce qui est improbable aussi, 2 actions défensives de haut niveau de Luka Doncic.
Ouais.
Quoi, il sait tout faire, hein, ce garçon.
Ouais, tout à fait. Une chose à dire encore sur cette série avant qu'on passe à JB, Bickerstaff et Cleveland?
Non, je sais pas, je trouve que physiquement c'est difficile de comparer Est et Ouest, mais l'Ouest dégage une force, une intensité, une espèce de dureté qu'il va falloir considérer Boston, en tout cas le vainqueur de l'Ouest, ajuste parce que ça me fait une impression.
Ah, quand tu passes de l'Est à l'Ouest, d'un jour à l'autre, là, les matchs, c'est quand même. Il y a un gap. Quoi.
Pire, dis-toi que ce sera encore pire l'année prochaine, la conférence Ouest. C'est ça qui est terrible.
Ouais.
Elle sera encore plus difficile. C'est, enfin, l'Ouest, c'est pas par hasard qu'il y a 12 sur 15 des joueurs dans la All-NBA, dans les All-NBA teams, ouais, qui viennent de l'Ouest.
Ouais.
On arrive à un truc, waouh.
Je pense que Minnesota a tout intérêt à gagner la conférence Ouest cette année, parce que c'est bien possible que dans le futur, ils soient rapidement à l'Est.
Il y a une fenêtre.
Ouais, c'est pas faux, ça.
Ça, c'est un vrai problème pour Boston, par contre.
Ouais, mais ça rééquilibrera un peu les choses, quand même. Ça, c'est pas faux.
Tu crois que c'est Minnesota qui irait?
Ou New Orleans?
New Orleans, ouais. Ouais.
Pourquoi pas les deux? Puisqu'on parle de Vegas. On parle de Vegas et Seattle.
Ouais, il faut
il en faut deux, ouais.
New Orleans, c'est Minnesota.
New Orleans, tu peux être sûr qu'ils vont y aller. Et oui, Minnesota serait la deuxième équipe.
Minnesota,
pense,
c'est plus proche que Memphis.
On a regardé au cas où, tu sais, on est quand même méfiant. Faire des confidences, on chance, ça allait faire rire. On a regardé de Indianapolis à Minnesota. Ça fait 500 et quelques 400, soit 80 miles, ou je ne sais plus en miles.
900 bornes. Quoi,
900 bornes. Donc, ça se fait facile, quoi. Ils sont à l'est, hein.
Ouais, c'est
plus,
vrai. Ouais, tout à fait.
Ça leur fait plus court d'aller à Indianapolis que d'aller à Portland, hein, je te le dis.
ça, c'est sûr. Conférence S, d'ailleurs. Cleveland, qui a limogé JB Bickerstaff. Alors que finalement le coach avait emmené les Cavs les deux dernières années à la quatrième place à l'Est, éliminé au premier tour par les Knicks l'an dernier. Cette année, c'est au deuxième tour par les Celtics, avec notamment la blessure de Jarrett Allen qui n'a pas facilité les choses. On parle de Kenny Atkinson et de James Borrego pour potentiellement le remplacer. Ouais, c'est fou.
Ça me surprend.
Est-ce que c'est justifié de la part des Cavaliers pour toi, Xav, de limoger JB Bickerstaff?
Je suis pas dans le vestiaire, je sais pas. Je ne sais pas du tout. En termes de résultats, est-ce que ils s'attendaient à mieux? Les résultats sont pas là, donc ils sautent. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les joueurs? Je n'en sais absolument rien.
Mais hors problème peut-être de vestiaire, est-ce que les résultats plaidaient pas un peu quand même en sa faveur?
Choquant. Est-ce que là, mais les résultats, d'accord, mais la manière qu'on a vu, dont on a vu la fin de saison des Cavaliers, c'est quand même assez. Et pas terrible quand même. C'est pas ouf ce qu'on a vu de la part des Cavs. Alors bon, écoute, c'est lui qui trinque. Peut-être que.
T'es pas ouf, Xav.
De quoi?
Qu'est-ce qui est pas ouf?
Leur fin de saison.
Oui, mais quoi? Le jeu.
Oui, le jeu.
L'attitude des joueurs qui
tout.
Refusent de jouer parce qu'ils ont
tout.
Un peu de travers.
Voilà. Est-ce que
les
c'est dû au coach
de,
peut-être.
De trade.
Je sais pas.
Les moi je reste si l'autre s'en va.
C'est ça.
Les si, les ça. Et à ce moment-là, on se souvient qu'il jouait pas très bien, mais c'est pas surprenant avec ce qui se passe. Moi, je trouve qu'il est un peu sévère, ce limogeage.
Si c'est pour prendre un Borrego, par exemple, je comprends pas. Très honnêtement, soit tu vas chercher un coach qui sait gagner, etc. Et t'as déjà des pistes. Si c'est pour prendre Borrego, je vois pas l'intérêt.
Il faut appeler un chat. Là. Donovan Mitchell a pas pris avec le vestiaire.
Ou avec le vestiaire ou avec Garland? Ou avec les deux?
Garland, il était un peu, je raisonne comme ça. Garland, Allen, c'était les mecs qui étaient là. Le Vert, c'est des mecs rajoutés. George Niang, c'est un miracle permanent. D-Wade, il est là depuis un moment. Dean Wade, il est là depuis un moment, mais c'est pas un mec qui doit la ramener. Garland, Mitchell, ça a jamais vraiment fité. Déjà, ils avaient fait de la place à Garland en dégageant Sexton. Non, il y a un échec de ce transfert. Donovan Mitchell est annoncé au Knicks, il était encore hier allé voir les Liberties. Je veux dire, il n'y a aucune certitude d'équipe. Alors, si on me dit que c'est Mitchell qui le fait dégager, ils ne sont pas sûrs de l'avoir. Garland a dit, moi, je veux être plus ceci, plus cela. Ils
ça ressemble un peu à ça, quand même.
C'est, bien sûr, mais les deux l'ont dû le faire dégager. Les deux.
Non, mais ils sont gentils, mais au final, est-ce que, quand tu vois l'effectif de Cleveland, est-ce que tu peux vraiment viser plus haut qu'une demi-finale de conférence? Peut-être finale de conférence si tu joues pas à Boston. Mais bon,
Indiana, cette année, ils étaient l'équipe. Juste pour moi, juste derrière les trois plus gros.
Et du coup, demi-finale de conférence, t'es là où tu dois être.
Pas de bol, c'est Indiana qui va.
Qui est du bon côté.
Et il n'y a pas Milwaukee, et il n'y a pas Philadelphie, et il n'y a pas les Knicks. Ils étaient quand même le mieux classés malgré tout après ça. C'est une forme d'échec pour eux, même s'ils n'étaient pas du bon côté. Oui, parce que 4-5...
Le problème.
Oui, mais bon, Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ils ont tout fait. Faut se souvenir quand même qu'ils ont, laissé tomber aussi le tout dernier match de saison régulière. Pour le perdre exprès.
Ça a peut-être coûté cher, t'as raison.
Oui, c'est possible.
C'est lui qui a pris cette décision-là, ce qui m'étonnerait.
Non, je pense pas que ça vienne de lui.
Bon.
Je serais surpris.
C'est encore pire alors.
Oui.
Parce que c'est à lui qu'on fait faire les conneries pour coacher comme il a coaché. Voilà.
Et après,
c'est mal ça, je voulais que je vous dise.
Et c'est vrai que quand tu finis ta saison sans Jared Allen, qui aurait dû avoir un vrai impact dans ses playoffs, effectivement, c'est compliqué. Donc
après, voilà, encore une équipe. On les a eus à Paris. On les a eus à Paris. On a parlé de Jared Allen, la bibliothèque. On a parlé.
La bibliothèque américaine.
C'est quoi cette histoire?
Il est venu à Paris pour aller dans une bibliothèque américaine.
Voilà. Ah, c'est intéressant ça.
Oui, c'est... comme toi, tu vas aux États-Unis pour trouver une flaque, tu vois.
Ça nous arrive d'aller dans un resto français, ce qui correspond.
C'est pas la même chose.
Si, c'est une bibliothèque, c'est notre culture aussi. Mais quand on les voyait évoluer, Donovan Mitchell avait fait un tabac dans la com, une équipe sympa, une équipe tout aussi. Tu l'as vu, Bickerstaff, quelque part? Il était un color inodore dans leur groupe. Depuis le début de saison, on l'a dit plusieurs fois dans l'émission, on avait le sentiment que sa tête a été sur le bio. Il a eu une saison avec des blessures de partout. Le mec, il navigue, il finit cinquième. Quatre.
Ils avaient la possibilité de faire deux ou trois, ouais. Ils finissent que quatre.
Alors, l'erreur majeure, c'est de vouloir éviter Philadelphie. Ça, c'est clair. Mais enfin, s'ils avaient perdu contre Joel Embiid, on leur aurait pardonné plus que ce qu'ils ont fait là.
C'est pas faux.
Donovan Mitchell ou Darius Garland, s'il y a un choix à faire, il faut mieux partir sur qui?
J'en sais rien. Encore une fois, moi je les connais pas, je sais pas.
Non, mais tu vois, le joueur, tu gardes Donovan Mitchell.
C'est pas un meneur.
Moi je trouve qu'en playoff,
l'autre c'est un meneur shooter, parfois scoreur, c'est-à-dire qu'il n'y met pas tout le temps dedans, mais c'est un scoreur naturel quand même, Garland, et meneur. Donovan Mitchell, c'est un combo garde. Alors là.
Oui, tu peux pas en faire ton meneur de jeu, mais en playoff, t'as quand même plus de certitudes sur Donovan Mitchell que sur Darius Garland, quand même.
Oui, mais c'est pas le même poste.
Qu'est-ce que tu compares, les certitudes?
C'est pas pareil de tenir. Regarde.
Mais les deux ensemble, ça marche pas.
Tout à l'heure, on a dit, pour rattraper, remettre et garder Minnesota froid, il faut que Conley soit bon. Et l'autre jour, il était pas trop là. C'est même lui qui perd la balle avec le lob pour Rudy. Donc. C'est ce poste-là, Donovan Mitchell, il est incapable de l'assumer. Regarde Booker, le seul qui a fait vraiment la transition, et encore, hein, c'est Steph Curry. Ces mecs-là qui mettent des paniers dans tous les sens, leur métier, c'est de mettre des paniers.
Parce qu'à la base, Steph Curry n'est pas meneur.
Non.
Voilà, c'est le poste 2 à la base.
Il y avait George Sadden, ouais.
Ah, mais lui, il est tellement malin, c'est encore
autre chose. Ouais.
C'est plutôt en défense où tu es obligé de le mettre sur le 4 pour le cacher. Oh, le mieux, c'est de le mettre sur le 6 hein, qui est sur le banc.
on s'arrête là pour aujourd'hui. Quelque chose à dire? Non, rien. De toute façon, on a fait les All-NBA Team, les Defensive Team.
Si, on va les féliciter de ne pas avoir mis Jalen Brown dans les All-NBA Team. Ça, quand même, ça reste une performance.
Moi, je suis choqué de ne voir qu'un seul joueur de Boston.
Bah ouais, une équipe à 64 victoires.
Et deux des Lakers.
Ouais, t'enlèves Davis ou LeBron?
Ça, je te laisse le faire.
Tu choisis, peu importe. Mais c'est vrai que je pense que Jalen Brown aurait mérité d'être. Il a été cité, hein, mais en tout cas dans un des trois cinq.
Ouais, Maxi un peu peut-être aussi limite.
Il en est pas loin, c'est sûr.
Pas loin, ouais, sur les votes Maxi pour entrer dans le troisième. Ouais.
Et puis bon, comme il faut quand même rappeler, ne jamais oublier que si t'as pas fait 65 matchs minimum, tu ne peux pas postuler une place dans les All NBA Teams. Ah, aucun trophée de toute façon. Donc ça peut expliquer ceci cela
aussi. Sauf Rookie, non?
Non, je crois pas. Rookie, il me semble pas non plus.
65.
Ah, il me semble bien. Ouais.
Okay. Depuis cette année.
Ouais,
c'est ça. Ok, ça marche. Bon, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Et puis, je vous dis à très, très vite. Ciao.
Salut, c'est Fred Testo. Bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France, où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Avec nous, Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. On démarre avec un témoignage particulièrement révélateur des problèmes d'addiction, celui de Paul.
J'ai débuté les paris sportifs à mes 18 ans. Très vite, j'ai eu un gros gain. Je pariais non-stop. Je l'ai caché à mon entourage. Ça a duré plus de 9 ans et je me suis retrouvé à une situation de surendettement.
Mohamed Bouafsi, votre analyse?
Quand il commence à jouer, Paul, il est très jeune. Qui dit jeunesse, dit vulnérabilité. rentabilité et après ça, on tombe dans le jeu compulsif. L'engrenage, on croit qu'on peut gagner facilement et rapidement de l'argent.
Laurent Carilla, comment on tombe dans le jeu problématique?
Il y a d'abord ce gain avec des émotions difficiles à gérer. Il y a d'autres étapes qui s'ajoutent, la perte, l'espoir de se refaire. Et l'étape d'après, c'est le désespoir avec ses conséquences. Tous les joueurs, même modérés, peuvent basculer dans le jeu problématique.
Parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.